Donc nous allons continuer notre étude, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, à partir du verset 17. Romains 2, 17. Il ne faut pas oublier que nous avons fait toute une description déjà de, par rapport aux païens, par rapport à ceux qui jugent. Et aujourd'hui, nous allons parler des juifs, du peuple juif, et essayer de voir aussi quelle instruction pour nous, pour nos vies. Romains 2, verset 17. « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Comme cela est écrit. La circoncision est utile, mais si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas ? Toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Le juif, ce n'est pas celui qu'on est à l'apparence et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. L'apôtre Paul, là, s'adresse aux Juifs parce que pour eux, ils se disent « Nous, on risque rien. La colère de Dieu ne peut pas nous atteindre. Le jugement ne peut pas nous atteindre. Nous sommes Juifs. Nous avons la loi. Nous avons la circoncision. Nous avons tout ça. Donc, nous risquons rien. » C'est vrai qu'ils peuvent être fiers d'être Juifs. De porter ce nom-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même une fierté pour être un peuple choisi de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un peuple choisi de Dieu. On voit dans l'Ancien Testament le récit comment Dieu a délivré son peuple de l'Égypte. Comment Dieu a envoyé ses 10 plaies afin que ce peuple soit délivré. Et ce peuple a été délivré. Et comment ce peuple a été conduit dans le désert. Et on voit toute l'histoire dans l'Ancien Testament. C'est vrai qu'il y a des parties sombres, mais il y a des parties formidables pour ce peuple. Ils ont eu vraiment des expériences formidables avec Dieu. Et on peut comprendre que d'avoir cette fierté, je suis le peuple choisi. Le peuple choisi de Dieu. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Quand nous lisons dans Deutéronome, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. » Wow. Il y a de quoi d'être fier. Psaume 135, verset 4, il dit « Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël pour qu'il lui appartienne. C'est vrai qu'il a encore dit, et c'est un passage parallèle, dans Deutéronome, il dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. » Mais il rajoute « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, le roi d'Égypte. » Être le peuple de Dieu, peuple juif. Mais c'est pas fini. Ils sont pas simplement le peuple, mais ils ont reçu les 10 commandements. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont reçu les 10 commandements. Dieu a parlé à un peuple. Dieu a écrit. Vous vous rendez compte un petit peu? Comparé au peuple païen, par rapport à ces peuples qui ont des idoles et qui ne parlent pas, là, ils ont un Dieu qui a parlé, un Dieu qui leur a donné les 10 commandements. Et pas simplement les 10 commandements, mais d'autres instructions aussi. Et encore là, ils peuvent avoir une fierté. Il est dit encore dans Deutéronome, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » En plus, et ce n'est pas marqué dans ce passage des Romains, il leur a donné une terre promise. Israël. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qu'ils entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Ah, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu? Il est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes comme toutes ces lois qui vous êtes présentes aujourd'hui? Donc un peuple choisi de Dieu, qui a les lois de Dieu, qui montre sa volonté. On peut comprendre un petit peu cette fierté qu'ils peuvent avoir. En plus, un Dieu qui agit, un Dieu qui répond à leurs prières. Un commentateur a résumé tous ses privilèges et dans ce passage de Romains, il en a pris 5 points. Le premier, peuple choisi. Deuxième, la possession de la loi. Troisième, ses relations avec Dieu en qui il se glorifie. Le quatrième, sa connaissance de la volonté et de la pensée divine. Le cinquième, son discernement des valeurs éternelles. Voilà tous les privilèges du juif. Tous les privilèges du juif. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, face aux païens, parce qu'il faut le replacer dans son contexte, hein, quand Paul a écrit cela, face aux païens, où ils ont des idoles, ils ne savent pas où aller. Ils supplient des idoles, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a aucune espérance. Ils sont dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et là, un peuple qui a la lumière, qui a un Dieu qui agit. C'est vrai que ça nous dépasse et c'est vrai que c'est un privilège. C'est un privilège qu'ils ont. Et on peut comprendre cette fierté. Mais cette fierté, hélas, par cette fierté, on peut être orgueilleux et mépriser les autres et se placer au-dessus. Au lieu d'être simplement reconnaissant en disant « Formidable Seigneur, merci, parce qu'on t'appartient. » Mais hélas, il y a aussi ce mépris. Quand il y a tous ces privilèges, on peut mépriser ceux qui sont dans l'ignorance. Et le verset 19, il dit « Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. » le docteur des insensés, le maître des ignorants. Vous voyez, donc, voilà, on est juifs, nous, on connaît, et on va vous enseigner. En fin de compte, c'était leur rôle, dans un sens. Ils devaient être des témoins, ils devaient être des lumières pour ce monde. Donc, ils ont ces privilèges, mais ils ont aussi des responsabilités. Suivre Dieu, faire sa volonté, avoir une vie conforme à ses lois et mettre la parole en pratique. Mais regardez la suite, qu'est-ce qu'il est dit ? Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Donc on voit d'un côté, ils ont tous ces privilèges, et c'est pas rien. Mais en fin de compte, ces privilèges ne leur servent à rien parce qu'ils ne les mettent pas en pratique. Et ça, c'est dramatique. Jésus dira, faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Car ils disent et ils ne font pas. Et tout le chapitre 23 de Matthieu, Jésus répète, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Voilà, vous êtes des sépulcres blanchis, vous nettoyez le dehors de la coupe et pas l'intérieur, et ainsi de suite. On pourrait aussi prendre ce passage de Tite qui dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Il y a aussi ce psaume 50 où il parle du méchant, de l'impie, mais on voit que c'est un impie qui dit ceci, je vous le lis, « Pourquoi rabâches-tu mes lois ? Tu as mon alliance à la bouche. » Donc on voit, ce n'est pas des gens qui sont ignorants, des personnes qui rabâchent la loi, qui ont cette alliance dans leur bouche, mais il dit, « Mais tu détestes les instructions, tu rejettes mes paroles au loin, derrière toi. » À peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice. Et puis tu fais cause commune avec l'adultère et ainsi de suite. En fin de compte, il explique que vous avez la loi, vous l'avez même dans la bouche, mais en fin de compte, vous ne la mettez pas en pratique. Et au lieu d'être un exemple, ils sont... Au contraire, le nom de Dieu est sali et blasphémé. Parce que ceux qui entourent, ils disent quoi ? C'est le peuple de Dieu ? Mais regardez comment ils se comportent. Et le nom de Dieu est blasphémé et sali. Paul continue, il parle de la circoncision aussi tout de suite après. Il dit la circoncision est utile si tu la mets en pratique. Si tu pratiques la loi, pardon. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Là aussi, c'est un privilège. Ils avaient une alliance avec Dieu. Cette circoncision, c'est ce que Dieu avait donné à Abraham. Il avait donné à Abraham, il est dit dans Genèse, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et de la postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Un signe d'alliance. Voilà, c'est un signe d'alliance. Mais pour le problème de ce signe de l'alliance, certains rabbins pensent, ils envisagent, ils disent, c'est bon, on a ce signe, on a forcément le salut. Il y a même des juifs, prétendaient que la circoncision les mettait à l'abri de la colère de Dieu. Voilà, on est circoncis. Par rapport aux incirconcis, voilà, on est protégé. C'est mettre sa confiance dans un rite. Pourtant, Abraham, quand il a reçu ce, ce signe de la circoncision, c'était après un acte de justice et de foi. Et ce signe a été donné parce qu'il y avait eu ce signe de justice et de foi, d'obéissance. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul continue, il dit, en fin de compte, le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Ce n'est pas celui qui a la circoncision, celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Alors pour résumer, je peux avoir tous ces privilèges, ces signes extérieurs, comme la circoncision, et être pourtant sous la colère de Dieu, sous le jugement de Dieu. Alors vous allez dire, oui, mais nous, ça ne nous concerne pas, ça concerne que les juifs. Mais ça serait très intéressant. Si je mettais à la place du non-juif chrétien, on peut le faire. Imaginez-vous que l'apôtre Paul serait parmi nous et qui dirait, moi je vais transcrire le passage pour vous. Tu es fier de porter le nom de chrétien ? Ah oui, on peut être fier d'être chrétien. Et petit Christ. Nous sommes ses disciples, c'est formidable. Tu as l'évangile en main, tu as l'évangile, c'est un privilège aussi. La parole de Dieu entre nos mains. Tu connais la volonté de Dieu, tu lis la parole, tu la connais la volonté de Dieu. Tu dis ce qu'ils doivent faire les autres, mais tu ne fais pas ce que tu dis. Ton attitude, le nom de Dieu est blasphémé à cause de toi. Ah, je suis baptisé. J'ai mon ticket pour le ciel. C'est formidable. Je t'ai baptisé, donc plus de problème pour moi. Vous voyez qu'on peut transcrire et ça marche très bien. Et c'est une leçon pour nous. Dans 2 Timothée 3,5, il dit « Ayant l'apparence de la piété, ou la façade, on pourrait dire, mais en reniant celui qui en fait la force. » Je peux avoir toute la façade d'un chrétien, me comporter, m'habiller, être vraiment « Ah, ça c'est un chrétien !» Suivre les traditions, même être baptisé. Et pourtant, se poser la question, est-ce que je suis un véritable chrétien ? Est-ce que je suis un véritable chrétien, un chrétien de cœur et non de façade ? C'est la question qu'il faut se poser. Et on n'a pas à avoir peur de se poser la question. L'apôtre Paul le dit lui-même. Dans 2 Corinthiens 13,5, il est dit « Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins, peut-être, que vous nous soyez désapprouvés. Dans Parole vivante, il dit « Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. » Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous ? À moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Il ne faut pas avoir peur de se poser la question. Est-ce que je suis vraiment un chrétien ou est-ce que je suis simplement le chrétien du dimanche et que je ne vis pas vraiment ma vie chrétienne ? J'ai simplement que la surface, que l'extérieur. Je suis chrétien parce que depuis que je suis petit, on m'a habitué à venir à l'église. Et puis je me suis fait baptiser parce que tout le monde se faisait baptiser. On peut. Parce que il fallait que je me fasse baptiser. Et pourtant, pas avoir eu cette véritable conversion. Alors je voudrais quand même qu'on revienne avec les deux derniers versets de notre passage de Romains 2. Verset 28. Le juif, entre parenthèses, le chrétien, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ou le baptême, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Bon, le baptême, on n'a pas dans la chair, mais voilà. Mais le juif ou le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La circoncision, c'est celle du cœur. Parler de la circoncision du cœur. Et il n'y a pas que dans le Nouveau Testament qui parle de la circoncision du cœur. Déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit même tout de suite dans Deutéronome 10, « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez pas plus votre cou. » Fallait qu'en fin de compte, ils aient une vie détachée de tout péché. Enlever tout péché dans leur cœur. Le Jérémie, plus loin, Jérémie, il est dit ceci, « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous, vous, pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » Et plus tard, il en parle encore, il dit, mais vous êtes circoncis, mais vous n'êtes pas circoncis de cœur. Parce que, en fin de compte, Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Et tout ce qu'on peut faire, et il y a d'autres passages dans les prophètes où il dit, ce peuple m'honore des lèvres, de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Donc le Seigneur, il regarde au cœur. Alors c'est vrai que, humainement parlant, le péché est tellement attaché à nos cœurs que nous ne pouvons pas nous-mêmes nous circoncire dans un sens. On essaye, mais... Et c'est pour ça que Dieu donne cette promesse dans Deutéronome, où il parle déjà... Il parle des malédictions, mais il parle des promesses, et il parle que son peuple, un de ces jours, il va le ramener. Et c'est ce qu'il fait, il ramène, et qu'est-ce qu'il dit ? L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Là, on voit, c'est Dieu qui le fait. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et plus tard, par Ézéchiel, il dira ceci, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » C'est Dieu qui fait cela. « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut faire. Aussi bien pour le juif que pour le païen. Galates 6,15, il dit, « Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Et c'est vrai, un chrétien, si véritable chrétien, ce n'est pas simplement porter le nom de chrétien, avoir la façade des chrétiens. Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui est en Christ et qui est une nouvelle créature, une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, c'est une nouvelle personne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu la vie de Dieu. Il y a eu cette opération, on pourrait dire. Il a mis à nous, en nous un cœur nouveau. Et d'ailleurs, il y a ce passage dans Colossiens qui nous parle de cette circoncision que Dieu a faite. Il dit dans Colossiens 2, versets 11 à 15, « C'est en lui que vous avez été circoncis. » Il parle à des chrétiens. « D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Et là, il nous parle du baptême. Mais le baptême, c'est pas simplement ce symbole qu'on fait. C'est vrai que quand on fait ce symbole où on met la personne complètement dans l'eau et elle ressort, Mais c'est quelque chose que, quand la personne se fait baptiser, c'est quelque chose qui s'est passé déjà intérieurement. Et en fin de compte, il montre devant tout le monde ce qui s'est passé réellement. C'est cette mort avec Christ et cette résurrection avec Christ. Oui, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a illuminé en le clouant à la croix. Il l'a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Là, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est là, c'est cette question qu'il faut se poser. Je suis chrétien, oui. Est-ce que je suis passé par cette vie nouvelle? Est-ce que j'ai été circoncis de cœur? Est-ce que j'ai reçu la vie? Est-ce que j'ai reçu la vie du Seigneur? Est-ce que le Seigneur a fait de moi une nouvelle créature, nouvelle création? C'est cette question qu'il faut se poser. C'est vrai que je peux être fier d'être porté le nom de chrétien, mais si j'en ai pas la réalité, mais si vraiment j'en ai la réalité, là je peux exprimer ma joie. Oui, Seigneur, formidable, tu m'as racheté, tu es venu me chercher, je suis sauvé, je t'appartiens. Et on peut vraiment le louer pour cela. Et on a l'évangile, on connaît la volonté de Dieu, on sait que Dieu agit dans nos vies. Et ça, c'est formidable, parce qu'on expérimente cela. C'est pas une religion de façade, mais c'est vraiment une vie nouvelle. C'est ça, un véritable chrétien. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui est né d'en haut. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est important. Ne nous cachons pas devant des étiquettes ou des privilèges que je n'ai pas, que je ne vis pas, oui, exactement. Et on pourrait dire que le véritable juif ou le véritable chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Parce qu'il y a des véritables juifs nés de nouveau. Les juifs pour Jésus, ils ne s'appellent pas chrétiens, mais ils sont juifs pour Jésus, nés de nouveau, circoncis de cœur. Ils sont chrétiens, mais ils s'appellent juifs pour Jésus, pour montrer que, on peut être juif, être croyant, circoncis de cœur. C'est la question que je dois me poser. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis circoncis de cœur? L'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 14, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu? Ou est-ce que je me cache derrière « Oui, mais moi je suis chrétien, mes parents étaient chrétiens, j'ai entendu l'évangile depuis que je suis petit. » Vous savez, il y a des personnes qui, des fois, qui disent « Ah oui, il connaît tel pasteur, il connaît tel pasteur, il connaît telle église, il connaît... » Ils disent beaucoup de choses. Alors, ils font tout l'étalage de ceux qui connaissent. Mais hélas, ils ne sont pas connus de Dieu. Et c'est ça qui est dramatique. Et des fois, on se repose sur... On pourrait dire tout un carnet d'adresses ou de recommandations. Mais si je ne suis pas recommandé par le Seigneur, si le Seigneur n'a pas touché mon cœur, je n'échapperai pas à la colère de Dieu et à son jugement. C'est pour ça que c'est important. C'est important de se poser la question. Si je ne suis pas sûr, n'hésitez pas. Venez voir les frères, venez me voir. Dire voilà, j'ai peut-être... depuis que je suis petit, j'ai entendu l'évangile et puis en fin de compte, je ne suis pas si sûr. Et c'est important de savoir. Parce que un chrétien a des certitudes. C'est pas non, il est certain parce que le Seigneur a circoncis son cœur. C'est important de réfléchir là-dessus. Nous allons prier.